Vénérable Monseigneur Alain de Boismenu. Si vous entendez faire mon éloge, surtout dites bien. Il a gâté son boy, il fumait des cigarettes, il aimait une petite goutte d'alcool et disait « Fichez-moi la paix ». Ces propos de Monseigneur Alain de Boismenu, l'évêque des Papous, laissent deviner, sous la rude écorce du vieux missionnaire, l'humilité d'un grand cœur dont la sainteté se révèle au naturel. Alain-Marie Guinaud de Boismenu, né le 27 décembre 1870 à Saint-Malo. Sa mère ne survit pas à cette naissance du dernier de ses 11 enfants. Alain sera donc élevé par sa sœur aînée, Augustine. L'enfant se révèle d'un caractère vif et d'un tempérament ardent. Il se soumet facilement à l'autorité d'un père, qu'il vénère, mais il regimbe parfois contre la sévérité de sa sœur aînée. Un jour, que celle-ci le réprimande et ajoute « Tu ne m'aimes donc pas ?» Il la fixe de son regard clair et répond « Si, je vous aime, mais je veux choisir d'obéir. » Le soir même, son père, mis au courant, lui dit « Alain, j'aimerais que tu choisisses d'obéir à ta sœur Augustine. » Le garçon promet et tient parole. 50 ans plus tard, évêque depuis presque 30 ans, il confiera en souriant à l'une de ses nièces. « Je n'obéis qu'à 2 personnes sur la terre, ma sœur Augustine et notre Saint-Père le Pape. » Au témoignage d'un camarade de classe, Alain n'était pas toujours très commode, mais il mettait tant de réflexion dans ses propos et de bonne humeur dans tout ce qu'il faisait qu'on l'aurait suivi n'importe où, car c'était déjà un chef et un organisateur. Au collège, l'un des prêtres lui a parlé d'une nouvelle congrégation qui envoie des missionnaires aux antipodes pour prêcher l'Évangile. L'idéal l'intrigue, et le désir de partir en Nouvelle-Guinée s'empare de lui. Entré dans ce but chez les missionnaires du Sacré-Cœur à Issoudun, il fait ses vœux religieux en 1888, et le 10 février 1895 reçoit la prêtrise. Devenez saint avant tout. La mission de Nouvelle-Guinée est alors en péril. Famine, fièvre et deuil la désolent. Le vicaire apostolique, Monseigneur Navarre, vient en France pour susciter de l'intérêt et demander du renfort. Le père Alain voudrait partir, mais ses supérieurs hésitent. Il est d'apparence fragile, et de plus robuste que lui n'ont pas résisté au climat et aux conditions de vie de la mission. D'ailleurs, la congrégation a besoin d'enseignants dans sa maison de formation. Pendant 4 ans, il s'acquitte de la charge de professeur. À cette époque, un évêque missionnaire, Monseigneur Ferjus, à qui le père Alain confie son désir, lui écrit « Vous continuez d'avoir la passion de nos chères missions. Tant mieux. Puisse-t-elle vous posséder encore davantage et devenir l'unique but de votre vie. Mais je vous en conjure, devenez saint avant tout. Il faut 100 fois plus de vertu, d'esprit de sacrifice et d'esprit de foi ici qu'en Europe. Tenez pour excellente la journée où vous aurez été fort contrarié. Exercez-vous à la patience, au support des défauts de vos frères, c'est un point essentiel. » Et voici qu'un jour de 1897, le père Alain reçoit de son supérieur général l'annonce qu'il est désigné pour la Nouvelle-Guinée, partie orientale de la grande île, qu'on appelle la Papouasie. Cette mission a été fondée 13 ans plus tôt. Au moment où le père de Boismenu l'aborde, le 25 janvier 1898, elle compte déjà 1900 catholiques sous la charge de 16 prêtres et de 17 frères coadjuteurs, répartis en 20 stations missionnaires. Il y a également une 15aine de religieuses, fille de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Les 2 premières semaines sur place sont occupées à visiter l'ensemble de la mission. Le 11 février, le père Alain est nommé provicaire général. La partie sud-est de l'île, que les missionnaires du Sacré-Cœur français ont en charge, est une possession britannique. Elle relève de l'autorité d'un gouverneur anglais qui prétend interdire aux catholiques les secteurs réservés aux protestants. Le père Alain défend, avec vigueur, le droit de la liberté d'évangélisation. Cependant, pour éviter les conflits, il prend l'initiative d'aller au large, vers les régions inexplorées dans les montagnes, pour y implanter les premières missions. Cette décision sera confirmée quelques années plus tard par le pape Saint Pie X lui-même, qui dira au père Alain, devenu évêque, « La lutte ne convient pas. Nous avons d'immenses terrains libres. Il faut y aller plutôt que de se heurter aux protestants. Nous ne pouvons nous unir à eux, mais ils sont en quelque sorte nos adjutores, nos aides. Ils donnent la vérité en partie. » En effet, comme l'enseignera le Concile Vatican II, ces églises et communautés séparées, bien que nous les croyons souffrir de déficiences, ne sont nullement dépourvues de signification et de valeur dans le mystère du salut. À la fin de l'année suivante, il reçoit sa nomination à l'épiscopat, en qualité de coadjuteur de Mgr Navarre. La consécration épiscopale lui est conférée le 18 mars 1900, dans la basilique de Montmartre à Paris. Il n'a pas encore 30 ans. Mgr Alain, c'est de cette manière affectueuse qu'on l'appellera le plus souvent, fait preuve d'une activité extraordinaire. Il n'échappe pas aux fièvres équatoriales, mais sa santé résiste. Chaque année, il parcourt plusieurs fois le territoire de sa mission, visite les postes éloignés les uns des autres de plusieurs journées de marche, fonde des stations, ouvre de nouveaux districts. Au témoignage de l'un de ses missionnaires, il se déplace avec une rapidité étonnante. À pied, à cheval, sur une méchante barque, il est toujours là pour dire la parole ferme qu'il faut, donner un élan, prendre les déterminations nécessaires. De retour en Papouasie, après sa visite ad limina à Rome, de 1911, Mgr de Boismenu, qui est devenu vicaire apostolique, reprend en main avec vigueur l'œuvre de civilisation et d'évangélisation. Orphelinat, école paroissiale élémentaire et professionnelle, école de catéchistes surtout, pour préparer une élite qui formera des chrétiens à son tour et suscitera des vocations. L'évêque est convaincu que l'avenir de la mission se trouve dans la formation d'un clergé autochtone. Il s'agit d'avoir non seulement des chrétiens, mais une chrétienté, affirme-t-il. Les réponses de Dieu. Mgr Alain s'appuie sur le Seigneur présent dans le Saint-Sacrement. J'élève, près de ma résidence, à Yule Island, un oratoire épiscopal. Il me faut le Saint-Sacrement tout près, pour que je puisse à toute heure aller trouver notre Seigneur, lui rendre compte de ma mission, lui exposer mes soucis, mes difficultés, et dans la solitude, lui parler cœur à cœur. Il y a des moments où nul homme ne peut me conseiller, des choses que je ne puis confier à personne. Et c'est si bon, si reposant, de pouvoir se recueillir tout seul et attendre les bonnes idées, les bonnes solutions qui sont les réponses de Dieu. Pendant la Première Guerre mondiale, la mission vit une période précaire. Si les missionnaires sont dispensés de servir sous les drapeaux, on ne peut pourtant plus compter sur l'envoi de renforts. De plus, le soutien financier vient à manquer cruellement. Pourtant, suivant un plan de visite aux stations et aux postes éloignés, tous les secteurs de la mission sont desservis. Pour soutenir ses prêtres dans cette situation difficile, Mgr Alain publie une lettre pastorale dans laquelle on peut lire « Si vous voulez donner à votre effort sa pleine mesure et assurer son succès, mettez-y largement l'élément surnaturel. » C'est l'élément essentiel, le maître facteur du résultat. Rien ne le remplace, ni dévouement, ni savoir-faire, ni travail acharné. Sans lui, c'est l'agitation stérile, le gaspillage des forces, le temps perdu. Avec lui, au contraire, c'est le plus petit effort fécondé, la moindre force décuplée, c'est le succès final, divinement garanti. En 1918, plusieurs jeunes filles papoues ont résolu de devenir religieuses. Monseigneur de Boismenu les réunit en communauté et leur donne le nom de servantes de notre Seigneur. Mais on prend vite l'habitude de les appeler ancelles. Mère Marie-Thérèse Noblet, venue de France, prend en main la jeune fondation et forme au service de l'apostolat les religieuses indigènes que Monseigneur de Boismenu, dès 1925, envoie dans diverses stations de la mission. Mère Marie-Thérèse partage l'idéal de son évêque. Elle a la même passion, l'amour de Dieu et le salut des âmes. La trame invisible de l'histoire. Dans ces contrées, jusqu'alors sous la puissance du prince des ténèbres, la lutte pour extirper les pratiques superstitieuses est intense. Dans une lettre pastorale du 29 septembre 1922, Monseigneur de Boismenu écrit à ses prêtres : Il existe bien deux royaumes qui se divisent le monde et se disputent les âmes. Deux armées toujours et violemment aux prises. L'armée de Jésus-Christ, l'Église, ardente à sauver les âmes, et l'armée de Satan, furieuse à les perdre. Guerre sans trêve ni merci. Beaucoup l'ignorent, beaucoup n'y voient qu'une fiction. Elle est pourtant bien réelle. C'est une trame invisible de l'histoire du monde, jusqu'à la fin des temps. Après avoir rappelé que Lucifer est rempli de haine contre Dieu et les âmes, l'évêque continue en dévoilant la tactique diabolique. Priver les hommes du surnaturel et les ramener au plan naturel, où sa nature supérieure reprend ses avantages et son empire. Comme il a réussi Satan chez les civilisés, comme il leur a restreint la part du surnaturel, il les a ramenés en masse au naturel. Il les y tient solidement enfermés. Cette tentation de limiter notre horizon aux choses de la terre est relevé également par le pape Benoît XVI. La majorité des hommes, dit-il, ne considèrent pas comme prioritaires les affaires de Dieu. Celles-ci ne nous pressent pas immédiatement. Et nous aussi, pour l'immense majorité, nous sommes disposés à les renvoyer à plus tard. Avant tout, nous faisons ce qui, ici et maintenant, nous apparaît urgent. Dans la liste des priorités, Dieu se retrouve souvent jusqu'à la dernière place. Il sera toujours temps, pense-t-on, de s'en préoccuper. À l'encontre de cette déviation, le Saint-Père propose l'exemple des bergers dans l'évangile de Noël. Celui-ci nous raconte que les bergers, après avoir entendu le message de l'ange, se dirent l'un à l'autre « Allons jusqu'à Bethléem ». Ils y allèrent sans délai, nous raconte Saint-Luc au chapitre 2. « Ils se hâtèrent », dit littéralement le texte grec. Ce qui leur avait été annoncé était si important qu'ils devaient se mettre en route immédiatement. En effet, ce qui leur avait été dit là allait absolument au-delà de l'ordinaire. Cela changeait le monde. Le Sauveur est né. Le Fils de David attendu est venu au monde dans sa ville. Que pouvait-il y avoir de plus important? L'Évangile nous dit « Dieu a la plus grande priorité ». Si quelque chose dans notre vie est urgent, c'est alors seulement la cause de Dieu. Dieu est important, il est, dans l'absolu, la réalité la plus importante de notre vie. C'est précisément notre priorité que nous enseignent les bergers. Nous voulons apprendre d'eux à ne pas nous laisser écraser par toutes les choses urgentes de la vie quotidienne. Nous voulons apprendre d'eux la liberté intérieure de mettre au second plan les autres occupations. Pour importante qu'elle soit, pour nous approcher de Dieu, pour le laisser entrer dans notre vie et dans notre temps. Le temps consacré à Dieu et à partir de lui à notre prochain n'est jamais du temps perdu. C'est le temps dans lequel nous vivons vraiment, dans lequel nous vivons en tant que personne humaine. Pour contrecarrer l'influence diabolique, Monseigneur Alain recommande la prière aux saints anges. « Égaux par nature aux démons, dit-il. Les saints anges ont pour eux l'avantage de la grâce. Ils percent les ruses et les menées de l'adversaire. Aucun de nos dangers ne leur échappe. Ils l'écartent parfois spontanément. Ils nous en avertissent toujours. Et si nous voulons, nous aident puissamment à l'affronter, apaisant nos passions, éclairant notre intelligence, fortifiant notre volonté, et s'unissant à nous pour obtenir un surcroît de grâce et de force. Heureux de servir Dieu en nous servant, leur service est un service d'amour, car ils nous aiment, nos chers anges, d'une amitié qui dépasse nos rêves. Sachant au juste le prix de nos âmes, ils en veulent le salut plus ardemment encore que Satan ne veut leur perte. Ah, si notre foi était plus simple, et plus vif le sentiment de la présence de nos anges, de leur amour, de la valeur de leur service, si nous étions plus attentifs à leurs inspirations, plus promptes à les appeler, et plus confiants dans leur aide, quelle force pour nous-mêmes et pour notre ministère. Le seul but de l'Église. Le 28 février 1926, le pape Pie XI publiait l'encyclique « Rerum Ecclesia » qui marquerait profondément l'histoire missionnaire de l'Église. Monseigneur Alain la présente ainsi. Pie XI proclame la loi suprême de l'apostolat, le salut du plus grand nombre, et trace fermement la ligne à suivre pour y arriver. C'est bien l'accent du divin maître. Sa voix souffle de son esprit, qui au cours des âges mène l'Église à sa mission. Dilater le règne du Christ partout, porter à tous les hommes le salut, c'est le seul but de l'Église militante. Le Concile Vatican II a lui aussi souligné l'appel de l'Église à la mission. Envoyé par Dieu, dit-il, aux nations, pour être le sacrement universel du salut. L'Église, en vertu des exigences intimes de sa propre catholicité, et obéissant au commandement de son fondateur, est tendu de tout son effort vers la prédication de l'Évangile à tous les hommes. Le catéchisme de l'Église catholique explique « Le but dernier de la mission n'est autre que de faire participer les hommes à la communion qui existe entre le Père et le Fils dans leur esprit d'amour. C'est de l'amour de Dieu pour tous les hommes que l'Église a de tout temps tirer l'obligation et la force de son élan missionnaire. Car l'amour du Christ nous presse. En effet, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut le salut de tous par la connaissance de la vérité. Le salut se trouve dans la vérité. Ceux qui obéissent à la motion de l'esprit de vérité sont déjà sur le chemin du salut. Mais l'Église, à qui cette vérité a été confiée, doit aller à la rencontre de leurs désirs pour la leur apporter. C'est parce qu'elle croit au dessein universel de salut qu'elle doit être missionnaire. Le premier prêtre indigène. Les directives de Pie XI sont si bien appliquées en Papouasie qu'en quelques mois, 23 nouvelles tribus ont pu être atteintes par les missionnaires et 18 nouveaux postes ouverts. En 1929, Monseigneur de Boismenu peut écrire à ses missionnaires « Vous n'avez pas fait feu de paille. Plus de 2000 catéchumènes sont en instruction, 5 fois plus qu'en 1925. Vous avez donc pris au sérieux la consigne romaine et rondement mené la campagne évangélique. L'allure est bonne, elle plaît à Dieu. Il aime qu'on le serve hardiment. » En 1930, Monseigneur Alain se rend de nouveau à Rome pour la visite décennale. À cette occasion, il passe un peu de temps dans sa famille, où il reçoit la demande de l'une de ses nièces de le suivre en Papouasie. Un an plus tard, Solange, bassin de Jessé, sera sur place pour succéder à Mère Marie Noblet, décédée en début d'année. En 1935, la mission de Papouasie fête son cinquantenaire. Un événement mémorable ouvre cette année jubilaire. L'inauguration du premier Carmel des îles océaniennes. Depuis plusieurs années déjà, Monseigneur Alain poursuivait des démarches pour la réalisation de ce projet. En 1937, il y a une autre joie, celle d'accueillir le premier prêtre indigène, le père Louis Van Jeke, de la tribu de Mekeo, ordonné à Madagascar, où on l'avait envoyé faire ses études. Dans une lettre pastorale, l'évêque laisse éclater sa joie. « Cet humble enfant de notre sol, le voilà donc consacré prêtre de Dieu, ministre autorisé de la rédemption de son fils, et l'intime ami de notre divin maître et Seigneur Jésus-Christ. » En voyant un des leurs à l'autel, en chaire ou au confessionnal, ils vont saisir sur le vif l'harmonieuse fusion des couleurs et des races, dans l'unité de l'Église, indifférente aux castes et nulle part étrangère. En mai 1941, la nouvelle se répand. Monseigneur Alain est mourant. Un missionnaire recueille alors de son évêque ces paroles. « Si je pars, que la volonté de Dieu soit faite. Demandez avec moi qu'elle se fasse. Je vous demande pardon à tous ceux et celles à qui j'ai fait de la peine, pour qui j'ai été trop dur, pas assez bon, pour qui j'ai eu des manques, manque de soutien, manque de justice. Oui, pardonnez-moi tous. Pour moi, je n'ai rien à pardonner. Non, rien à pardonner. On est de la même famille, n'est-ce pas? On a pu faire mutuellement de la peine, mais on s'est pardonné mutuellement. Contre toute prévision, l'évêque se remet et peut reprendre quelques mois plus tard ses visites pastorales. L'extension des hostilités dans le Pacifique pendant la Deuxième Guerre mondiale met de nouveau la mission à rude épreuve. En février 1942, les forces japonaises débarquent sur la côte nord de la Nouvelle-Guinée. Dans ce contexte peu rassurant, Monseigneur Alain donne des directives. Il prend des mesures pour prévenir la disette. Sur le plan pastoral, il précise les conditions requises pour l'absolution générale et souligne que les secours spirituels sont dus à tout belligérant, quelle que soit sa nationalité. Du temps pour aimer à fond. En 1945, le Saint-Siège lui donne un successeur dans la personne du père André Saurin. À la grande joie de tous, Monseigneur de Boismenu restera en Papouasie. Cette année durant, il vivra au pied des montagnes. De son ermitage, il continue à rendre quelques services pour le bien des âmes, mais avant tout il se consacre à la prière. « Quant à moi, écrit-il à un missionnaire, je vis retiré dans mon ermitage, auquel est adjoint maintenant un petit oratoire où je puis encore, Dieu merci, célébrer la Sainte Messe tous les jours, grâce que j'espère avoir jusqu'au bout. Suprême consolation des vétérans qui peuvent encore ainsi accomplir l'œuvre de la rédemption. Alors que sa fin approche, il écrit à l'un de ses neveux, « Je suis impotent, et plus rien ne marche, sauf le cœur, qui a désormais du temps pour aimer, à fond. C'est bon de se dire qu'on peut aimer de plus en plus, et qu'il nous sera donné d'aimer dans une pleine mesure un jour. » Apprenant que leur père est près de sa fin, les missionnaires accourent à son chevet. Le mourant les accueille avec sa gentillesse habituelle, et leur confie « Je n'aime pas la façon dont certains livres parlent du détachement. Nous avons un cœur, c'est pour aimer. Notre Seigneur a aimé. Ce qu'il ne veut pas, c'est que nous aimions au point de nous cramponner. Il faut pouvoir lâcher au premier appel, à être prêt à toutes les séparations. Mais cela fait mal. Sentant ses forces le quitter, il regarde longuement les missionnaires qui l'entourent et leur dit d'une voix forte, « Tenez bon !» Le 5 novembre 1953, À 3 heures de l'après-midi, son cœur cesse de battre, à l'instant même où l'on récite le verset « Seigneur, entre vos mains je remets mon esprit ». Son corps repose au Cubuna, dans le cimetière de Valfleury, auprès de ceux de Mère Marie-Thérèse Noblet et de Mère Solange Bassin de Jessé. Sa cause de béatification a été introduite. La devise épiscopale de Monseigneur Alain de Boismenu, « Ut cognoscante, afin qu'ils te connaissent », est tirée du discours prononcé par Jésus après la scène. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le bonheur, la passion de cet évêque, a été de conduire les hommes à la connaissance de Dieu, qui seul peut les sauver et les rendre heureux. Que l'exemple de son zèle nous aide à étendre le royaume de Dieu sur terre et à conduire les âmes vers la béatitude du ciel. L'Église catholique romaine a ouvert un procès en béatification le concernant, et ainsi, le 16 avril 2014, à la suite de l'audience accordée au cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les causes des saints, le pape François a ordonné la promulgation du décret relatif aux vertus héroïques du serviteur de Dieu, Alain de Boismenu, ce qui ouvre la voie à sa prochaine béatification et permet désormais de l'évoquer en tant que vénérable.